SBS en français. Partagez nos rubriques sur Facebook.
Le plaisir d'avoir dans les studios de Radio SBS Dr Virginie André. Bonjour à vous.
Bonjour.
Isabelle Prel.
Bonjour.
Et Medine Zawish.
Bonjour.
Virginie, on commence par vous. Puisque c'est une conférence organisée par Deakin University sur le thème du nouveau paysage du terrorisme.
Oui, c'est exact. Donc en fait, c'est une conférence qui a lieu du 17 février au 19 février, qui est un peu inhabituelle dans le sens où en général, ce sont des conférences qui durent une journée à deux jours. Et donc l'idée de la conférence, c'était de pouvoir se donner le temps, finalement, de discuter des différents aspects du nouveau paysage du terrorisme suite à l'émergence de Daesh depuis les deux dernières années. Et donc il nous fallait plus ou moins trois jours pour pouvoir débattre des différents thèmes, des différentes dimensions de ce nouveau type de terrorisme.
On peut parler des thèmes que vous allez aborder lors de cette conférence ?
Oui, bien sûr. Donc le premier jour va analyser l'idéologie de Daesh, l'évolution aussi du terrorisme. Est-ce qu'il y a de nouveaux aspects par rapport à ce qu'on connaît du terrorisme, donc surtout au niveau idéologique ? Donc, c'est-à-dire le premier jour, on retrace la genèse de l'évolution de Daesh et aussi l'analyse de, finalement, s'il y a une continuité entre Al-Qaïda et Daesh. Donc ça, c'est le thème, on va dire, général du premier jour. On touchera aussi également à la question du sectarisme au Moyen-Orient et dans quelle mesure ce sectarisme a eu un impact ou non sur les communautés musulmanes en Occident, que ce soit en France, en Belgique, en Grande-Bretagne, au Danemark et ici en Australie.
Et ça vous a pris combien de temps pour organiser cette conférence ?
Beaucoup de temps. Alors, au mois de juillet, suite à mes travaux de recherche et mon équipe, on s'est posé la question de savoir s'il était temps aujourd'hui de finalement organiser une conférence qui toucherait à ces différents thèmes et de voir quels étaient les thèmes importants, de quelle manière les développer. Donc on a commencé à travailler sur la thématique déjà au mois de juillet. Et puis finalement, on avait un programme plus ou moins complet au mois de septembre, octobre. Et à partir du mois d'octobre, on a pu recevoir des soutiens financiers pour organiser la conférence, qui est assez important, sinon c'était pas possible pour nous d'organiser la conférence. Et finalement, on a vraiment bouclé le programme, je dirais, au mois de novembre. Et c'est en fait suite à ma visite en Europe, donc j'ai fait un terrain l'année dernière à Paris, où j'ai rencontré Medine, en Belgique, où j'ai rencontré Isabelle, aussi au Danemark, en Italie et en Grande-Bretagne. Et c'est au travers de mes rencontres, de mes entretiens avec les différents acteurs, que le programme s'est vraiment cristallisé et que l'orientation que je voulais donner à la conférence s'est cristallisée vraiment à ce moment-là. Et évidemment, malheureusement, les attentats du mois de novembre à Paris m'ont conforté dans ma décision de prendre une certaine direction par rapport à la conférence, et d'autant plus a conforté ma décision d'avoir des acteurs et des intervenants comme Isabelle et Medine à la conférence, qui selon moi est très important et manque cruellement aujourd'hui dans les débats autour de la radicalisation, de la lutte contre l'extrémisme. Ce sont des voix essentielles qui parfois ne sont pas suffisamment entendues, je pense, en France ou en Belgique.
Et la plupart de vos invités viennent d'Europe, j'imagine ?
Alors oui, nous avons des intervenants du Danemark, de Grande-Bretagne, d'Allemagne, de France, de Belgique. On a une présence assez importante de la France et de la Belgique. C'était quelque chose qui était souhaité de ma part. Ainsi que des intervenants des Émirats arabes et de Thaïlande et des Australiens, évidemment.
Il y a un projet sur lequel vous travaillez que vous aviez mentionné tout à l'heure sur l'extrémisme. Et vous faites une comparaison, d'après ce que je comprends, entre la France et l'Australie. On peut en parler ?
Oui, bien sûr. Alors, le projet sur lequel je travaille pour l'instant est un projet qui est subventionné par la Commission nationale de broadcasting et de télécommunication de la Thaïlande, qui nous a chargé de développer un modèle de diffusion au niveau des médias traditionnels, télévision, radio et réseaux sociaux, pour lutter contre l'extrémisme. Et dans le développement de ce modèle, j'ai effectué des recherches et un voyage d'études en Europe pour avoir une meilleure idée de quelles étaient les initiatives en place, que ce soit au niveau gouvernemental, au niveau de la société civile, du monde associatif, dans différents pays européens. Et donc évidemment, les pays les plus affectés par les départs vers la Syrie, c'est la France et la Belgique. Et le Danemark, par contre, avait des initiatives aussi très intéressantes au niveau du retour des jeunes qui partent vers la Syrie, comment gérer le retour des jeunes. Et donc toutes ces initiatives étaient très, très intéressantes. Et la question était de voir dans quelle mesure on pouvait adapter ces initiatives au contexte thaïlandais, mais aussi de voir dans quelle mesure on pouvait essayer d'éviter de répéter des programmes ou des initiatives qui étaient problématiques. Et à travers ce séjour et ce voyage d'études, ce qui est devenu très clair pour moi, c'était que finalement, les différentes communautés musulmanes au travers de ces pays européens et en Thaïlande et également en Australie avaient, des expériences assez similaires. Donc finalement, à des degrés variés, mais des expériences similaires, des problématiques similaires. Et donc la Thaïlande, si on devait, je pense, comparer la Thaïlande aux pays européens par rapport au problème de l'extrémisme, la Thaïlande est encore, on va dire, dans une phase assez positive et assez privilégiée, parce que nous ne sommes pas dans une phase où, comme en France ou comme en Belgique, la Thaïlande fait face à un risque élevé de terrorisme. Il y a des similitudes avec certaines problématiques qui sont vécues en France et en Belgique, mais on est dans une phase plutôt de prévention. Donc, on a pu, en analysant la situation en France, en Belgique et dans d'autres pays comme la Grande-Bretagne, et comparer ces expériences avec l'expérience de la Thaïlande, et définir, voilà, aujourd'hui, la Thaïlande est dans une position unique où elle peut faire un excellent travail de prévention, tout en s'appuyant sur les expériences européennes et les initiatives européennes. Et donc, ce qui m'a amené à vouloir justement aussi traduire ces expériences au sein de la conférence.
Isabelle, je viens vers vous. Vous êtes belge et d'après ce que je comprends, vous êtes au sein du comité exécutif des musulmans de Belgique.
Je suis, j'ai été vice-présidente de 2008 à 2014 au sein donc du conseil, enfin l'équivalent du conseil des musulmans de France, mais qui s'appelle donc en Belgique l'exécutif des musulmans de Belgique. Mon mandat de vice-présidente s'est terminé en 2014, mais je suis toujours membre de l'Assemblée générale de la nouvelle équipe qui a été constituée en 2014. Et donc, pour clarifier un peu à quoi sert cette instance, donc il faut savoir que la Belgique s'inscrit dans un principe de laïcité qu'on appelle plutôt neutralité. Et donc, ce principe de neutralité, ça veut dire que l'État belge s'inscrit comme le garant de la reconnaissance égalitaire de tous les cultes et les croyances qui s'inscrivent dans une forme d'organisation et qui s'inscrivent dans la procédure officielle de reconnaissance. Et donc, ça veut dire que la communauté musulmane, au même titre que la communauté catholique, protestante, juive, bouddhiste, et même la laïcité organisée qui s'inscrit dans ce processus de reconnaissance de culte, quelque part, un peu un paradoxe en même temps, donc les musulmans de Belgique ont pu accéder finalement au cadre légal qui prévoit donc cette reconnaissance égalitaire des cultes et qui a pour mission, parce que je pense que c'est important de clarifier et de savoir, et donc je vais cibler juste l'essentiel de ses compétences, ça veut dire que sur les territoires belges, on a à peu près 300 mosquées, on a à peu près 1500 professeurs de religion musulmane, on a des conseillers musulmans ou aumôniers qui officient dans les prisons, dans les hôpitaux, dans les centres de détention pour mineurs aussi, plus des dossiers liés au label halal, à toutes les questions des faits religieux. On est confronté à cette problématique-là aussi, tout en sachant que le culte musulman, il est laïcisé. Donc normalement, il s'occupe de la la gestion pratique et administrative du culte et pas normalement pas des questions religieuses. Mais la réalité fait qu'il y a un vide et qu'on est souvent interpellé sur ces questions-là. Et donc finalement, l'exécutif devient l'interlocuteur direct entre la communauté musulmane et les autorités belges. Et donc finalement, moi j'ai évolué dans ce dossier donc depuis 2005 puisqu'à ce moment-là que j'étais membre de l'Assemblée générale avant de devenir vice-présidente. Et alors j'étais confrontée à des grands paradoxes. C'est que d'un côté, il y a un cadre légal qui fait la promotion d'une gestion égalitaire entre les différents cultes, mais que la réalité sur le terrain nous confronte quand même à des anomalies qui sont, pour moi, que je mets directement en lien avec la question du radicalisme pour différentes raisons. C'est que j'ai l'impression que d'un côté, la reconnaissance du culte musulman en 1974 prévaut après, surtout, je vais dire, la période de crise pétrolière par laquelle on a été frappé au niveau mondial. Et donc la Belgique, à ce moment-là, reconnaît officiellement le culte musulman et donne un pavillon au roi Faisal d'Arabie Saoudite, qui va devenir un pavillon symbolique, puisque ça va devenir la mosquée du cinquantenaire, donc c'est la grande mosquée de Belgique. Et là commence, à mon avis, la première question qu'on devrait se poser, c'est comment se fait-il que nous nous trouvons en Belgique et que d'emblée, on donne comme étant le gestionnaire du monopole du culte musulman un pavillon à l'Arabie Saoudite que l'on connaît clairement dans une lecture littéraliste de l'islam qu'on appelle le wahhabisme. Et finalement, donc, au départ de la reconnaissance de ce culte, c'est la grande mosquée sous l'autorité saoudienne qui va gérer les dossiers liés à l'enseignement des professeurs de religion musulmane. Donc c'est la première étape de la reconnaissance du culte. Et là, je me dis, on est face quand même à une anomalie, se dire, nous sommes dans un contexte belge. Le wahhabisme, c'est clairement une lecture littéraliste, voire extrême de l'islam, qui est en refus de la modernité, qui est dans une vision un peu archaïque et figée par rapport à tout ce qui est science et autres, qui est dans une approche de la femme soumise à l'homme, et qui fait en plus la promotion d'une lecture de la diversité, que tant qu'on s'inscrit dans une fidélisation de leur idéologie, qu'on prête allégeance et qu'on s'inscrit dans leur vision, ben ça va, on peut arriver tout doucement à vivre en étant un peu respecté. Mais au-delà de ça, tout ce qui est croyances différentes, tout ce qui est refus de s'inscrire dans leur vision, c'est quand même une idéologie qui prône une forme de violence, de rejet, voire jusqu'à la mise à mort. Et je parle en ces termes parce que finalement, pour moi, on est confronté à une lecture de l'islam qui fait la matrice de ce qu'on a comme groupuscules style Daesh et autres groupes terroristes à l'heure d'aujourd'hui, qui trouvent leur essence et les germes idéologiques dans cette pensée-là. Alors donc d'un côté, à travers la gestion de ce culte qui après a été livré aux autorités turques et marocaines parce que les questions sécuritaires des années 80 ont fait que la communauté musulmane en Belgique est majoritairement turque et marocaine, donc on a retiré ce dossier-là de l'Arabie Saoudite, mais on l'a livré à des gestionnaires diplomatiques turcs et marocains. Et finalement, on se retrouve à nouveau confronté à un autre problème, c'est que leur vision et leur approche de l'islam est utilisée pour renforcer le dictat des pays d'origine sur les communautés musulmanes de Belgique. Et donc, alors que la population souffre en Belgique, la population d'origine musulmane souffre d'une reconnaissance d'un droit égalitaire, on fait à nouveau le jeu de les priver de l'autodétermination pour les mettre sous l'autorité de pays étrangers, mais qui eux-mêmes sont encore mis à mal par rapport au respect des droits de l'homme. Donc la Turquie, clairement, fait la promotion des censures au niveau des libertés d'expression, a des rôles quand même assez bizarres par rapport à tout ce qui se passe en Syrie. Le Maroc, il y a 3 ans, fait la promotion d'une fatwa, donc d'un avis religieux de peine de mort pour apostat. Donc je me dis, on est en train quelque part de donner une voix et une approche à l'islam institutionnel belge, qui est quelque part directement livré à l'Arabie Saoudite, puis indirectement à des pays étrangers, mais qui font que l'approche religieuse qui va être mise au service de l'utilité publique va être en décalage avec les réelles questions et la réelle vision que ces citoyens belges ont dans la société belge. Donc si on nous livre des imams qui sont parachutés pendant 4 ans en Belgique et qui viennent d'Ankara et qui tiennent un discours d'Ankara en turc et qui ne sont pas capables de comprendre la langue du pays, comment est-ce qu'ils vont être en phase avec la réalité de ce qu'on vit? Et si on a des imams marocains qui sont sous l'autorité marocaine et qui ont des discours de Rabat, les discours qu'ils vont avoir ne vont pas non plus concerner, toucher directement la réalité contemporaine des citoyens belges et en l'occurrence de jeunes. Et donc quelque part, ça va faire le lit et la promotion d'un décalage entre la réalité de ce que ces jeunes vivent et le fait que les discours des mosquées ne sont pas du tout adaptés à ce qu'ils vivent. Et puis d'autre côté, sur un fond aussi d'une société qui est normalement en état de droit, mais qui est mis à mal aussi avec la mise en application de ces réels principes égalitaires. Et donc on se rend compte aussi que d'un côté, donc cette lecture de l'islam organisé est en décalage avec la réalité, mais de l'autre côté aussi, sur le territoire belge, on a quand même différents rapports d'Amnesty International et autres qui pointent du doigt les mauvaises pratiques en termes de gestion égalitaire, parce que pour pouvoir accéder à la formation, à l'enseignement, au travail, il y a vraiment des pratiques discriminatoires qui font que les musulmans, donc les citoyens belges de confession musulmane, ne se sentent pas et ne sont pas reconnus à titre égalitaire, au même titre que les autres citoyens. Et donc tout ça, quelque part, me fait parvenir à l'analyse de dire, ben, entre un islam radical dont on fait la promotion de manière indirecte, avec la complaisance des autorités belges, puisqu'ils sont demandeurs d'organiser le culte de cette manière-là, et de l'autre côté, un terrain qui fait la promotion, je dirais, j'appelle ça d'un islam light ou dénaturé, où pour pouvoir prétendre à ses droits, il faut pouvoir amputer une partie de son identité musulmane. On est en train de travailler sur un terrain qui va devenir favorable à l'expansion du radicalisme. Et donc, à travers les actions que je mène, ben, j'essaye à mon niveau personnel de voir comment sensibiliser l'opinion publique et le monde politique par rapport à ces questions dont il faut pouvoir parler. Je sais que ça veut dire que ça remet en question, et ça peut être des questions chocs qui déstabilisent, mais je pense que nos autorités politiques belges font le jeu de la diffusion d'un islam radical pour des intérêts des fois économiques et politiques dans les régions du proche du Moyen-Orient, ou alors par rapport aux intérêts directs qu'on a en Belgique, et occulte la cohésion sociale et l'intérêt public qui vise normalement à protéger le pacte social et la paix sociale qu'on a dans notre pays. Et de l'autre côté, je questionne aussi la responsabilité des politiques de discrimination qu'on a. Et je dis qu'il faut absolument faire la promotion de réelles politiques égalitaires dans l'accès à l'enseignement et dans l'accès au boulot. Parce que pour moi, ce sont les vecteurs essentiels d'émancipation et de construction des individus qui vont permettre aux gens de se sentir reconnus en tant que tels, en phase avec et la démocratie et leur identité religieuse. Et alors, un troisième volet sur lequel je me questionne et que j'ai envie vraiment de renvoyer des propos d'introspection au sein même de la communauté musulmane aussi, je pense qu'on doit vraiment donner les outils critiques afin que les citoyens de confession musulmane puissent aussi apprendre à avoir une relecture critique même de leur... de l'histoire de l'islam et des références dans lesquelles ils s'inscrivent, parce que quand même, au nom de l'islam, certaines références musulmanes ont fait la promotion de guerres offensives, ont fait la promotion d'un prosélytisme sanglant afin de propager l'islam dans le premier temps de l'islam. Et c'est dans les propos de Daesh, donc quand on voit leurs communiqués de presse et leurs justifications, on entend quand même qu'ils font la justification de leurs actes à travers des références historiques, mais qui sont toujours des références actuelles dans la mentalité, dans la référence des jeunes actuellement, et pour moi qui sont complètement à l'opposé des valeurs et des enseignements de l'islam, et que le prophète a clairement diffusé. Enfin, moi, je me suis converti à l'islam il y a une trentaine d'années. J'ai trouvé dans cette religion une continuité des valeurs et des principes que mon éducation chrétienne m'avait donné. Mais je pense qu'il faut absolument que, à travers les outils critiques, on puisse vraiment développer le libre arbitre des jeunes musulmans afin qu'ils puissent par eux-mêmes trier sur le tas toutes les informations auxquelles ils sont confrontés. Donc d'un côté, vous avez la mosquée du cinquantenaire qui diffuse une approche wahhabite ouvertement sur le territoire belge, qui donne des cours et qui est clairement active. Vous avez des diffusions d'ouvrages qui font la promotion du sectarisme et de la violence à l'égard de la diversité sur le territoire belge. Donc quand j'ai des amis chrétiennes qui me disent, j'ai reçu chez mon épicier un livre qui me dit et qui s'adresse aux musulmans, si ton voisin il est chrétien, tu ne le salues pas, tu n'as pas de relation avec lui, les femmes sont arléguées entre les quatre murs et dans leur casserole et dans leur cuisine, je pense que quand même là c'est quand même un problème qu'on arrive encore sur le territoire belge à diffuser ce genre d'ouvrage. Quand vous avez des mouvements style Sharia for Belgium ou des personnages comme Jean-Louis dit le soumis, qui ont été dernièrement condamnés à différents pannes pour leur prosélytisme et leur recrutement pour le radicalisme et le djihadisme. Je dis quand même, jusqu'où est-ce qu'on a été complice de la diffusion de tout ça? Et quand je vois toutes les chaînes satellitaires saoudiennes qui sont accessibles sur le territoire belge, que ce soit au niveau religieux, au niveau information, je pense qu'on est vraiment mis à mal et qu'on doit vraiment remettre en question nos politiques.
Je viens vers vous, Médine. Parlez-nous de votre rôle comme président de Don't Panic Team.
Ouais, Don't Panic Team, c'est une association sportive. Moi, je suis le président. C'est essentiellement de la boxe anglaise. Et on interagit essentiellement dans des quartiers qu'on appelle les quartiers populaires, la banlieue française, dans la région nord-ouest de France, donc le Havre précisément. Et donc moi j'en suis le président, donc j'en suis surtout le porte-parole, le promoteur, celui qui tente de faire connaître les activités de cette association. On fait du sport dans des endroits où il y a criamment besoin de social. Et dire qu'on fait du social, ce serait un pléonasme, parce que dans tous ces endroits où est-ce qu'on a une activité culturelle ou bien sportive, intrinsèquement, il y a une action sociale qui est liée à cette démarche, parce que ces endroits ont tellement besoin de d'ouverture culturelle, d'émancipation sportive, que ça en devient tout de suite une action sociale que d'avoir une action différente de celle des institutions. Donc j'en suis le président, mais à côté de ça, je suis un artiste, je suis un rappeur,
je sors des
albums là régulièrement, des albums très critiques avec le contexte dans lequel se trouvent les jeunes de France, précisément les jeunes des quartiers populaires, et puis forcément avec toutes les minorités qui composent là ces quartiers populaires. Donc je ne suis en aucun cas un académique, un universitaire. Je n'ai pas de bagage de chercheur. Je n'étudie pas des régularités pour pouvoir produire des chiffres et puis les présenter. J'interviens à cette conférence comme un espèce de témoin de ce qui se passe actuellement en France dans le contexte d'état d'urgence, post-attentat bien sûr, et de rappeler que les jeunes qui vivent dans les quartiers populaires résistent à ces formes de radicalisme, résistent à ces pressions populistes, résistent à tout ça et dans la grande majorité sont des combattants justement de tous ces maux dont ils sont accusés, dont ils sont amalgamés la plupart du temps. C'est ce pourquoi j'interviens à cette conférence, pour faire un espèce d'état des lieux.
Et comment est-ce que Daesh a changé la donne en France ?
Elle l'a changé sur le plan international, dans la façon d'opérer, avec des outils de communication qui sont très affûtés. Et forcément, ça gangrène toute une jeunesse qui est très en proie à ces outils de communication-là. La France n'y est pas exclue. Je rejoins beaucoup Isabelle sur les causes de tout ceci. C'est précisément les questions qui sont évitées par la classe politique. Aujourd'hui, on ne parle essentiellement que de processus d'individuation chez les jeunes qui n'ont pas abouti, d'une rupture avec la société, mais on ne rentre jamais vraiment dans le détail idéologique de tenter de comprendre qu'est-ce qui à un moment donné a capoté et a fait en sorte qu'on en arrive ici. Quelle est la responsabilité étatique ? Quelle est la responsabilité des différentes classes, même la même médiatique, pour parler très clairement ? Et c'est précisément ces questions-là qu'on évite soigneusement dans les débats à travers le monde et pas qu'en France. Et cette conférence est précisément en rupture avec ces débats un peu bien pensants, et on tente de rentrer dans le vif du sujet, de tailler dans le gras, de comprendre qu'est-ce qui fait les mécanismes, sans chercher à l'excuser encore une fois. Il y a cette fameuse accusation qui pèse sur tous les interlocuteurs, sur tous les débatteurs de France, qui est d'être dans la culture de l'excuse, de vouloir excuser ce que feraient les potentiels la djihadiste. Non, chercher à comprendre, encore une fois, ne veut pas dire excuser. Chercher à comprendre, c'est tenter de comprendre les mécanismes qui amènent ces jeunes à partir, à les combattre et aller jusqu'à la mort.
Et on imagine que vous êtes optimiste, car c'est à travers votre musique que vous avez la possibilité de sensibiliser les jeunes pour éviter cette radicalisation.
Je vois effectivement le verre à moitié plein, parce que quand d'autres le voient à moitié vide, parce que je crois que les processus d'intégration ont fonctionné. Ils n'ont pas fonctionné comme l'État français l'aurait souhaité. Ils ont fonctionné de façon organique. Il y a un vivre ensemble qui s'est réveillé en France, qui vient des couches populaires, des classes populaires, par dépit. Dans les quartiers populaires, toutes les communautés se fréquentent, vivent ensemble. Différentes religions, des agnostiques et des croyants se fréquentent. Il y a un vivre ensemble par dépit qui s'est installé, et qui est devenu organique et qui est en rupture avec toutes les statistiques que l'on peut faire sur les quartiers, sur les ghettos de France, qui vise justement à condamner ces endroits que le Premier ministre français a appelé les endroits perdus de la République, cet apartheid social. Eh bien, je crois l'inverse. Je crois qu'on a réussi. On a réussi le processus d'intégration. Et qu'effectivement, il y a des dysfonctionnements, il y a des cas qui ont disjoncté, mais ça ne concerne pas que les quartiers. Quand on regarde le profil là, des djihadistes aujourd'hui, eh bien, il est large ce profil. Il y a des gens qui viennent des milieux ruraux, il y a des gens qui viennent d'autres classes sociales. Et c'est bien que le problème n'est pas forcément figé sur une ethnie, une idéologie, qu'il est vraiment répandu à l'échelle nationale par des canaux que l'on laisse proliférer.
Je reviens vers vous, docteur Virginie André. Oui. Vos attentes de cette conférence de Melbourne ?
Alors, j'ai beaucoup d'attentes par rapport à cette conférence, mais peut-être avant de répondre à la question, j'aimerais rajouter que, contrairement aux conférences qu'on peut avoir ici en Australie et aussi en Europe, sur la question de la lutte contre l'extrémisme, sur la radicalisation, vous verrez que le format que nous avons choisi pour la conférence est assez différent. Différent dans le sens où la parole n'est pas donnée uniquement aux universitaires, aux académiques, mais elle est donnée aux acteurs sociaux, comme Médine et comme Isabelle, mais aussi elle est donnée aussi aux praticiens, donc c'est-à-dire les personnes qui sont face à ces problèmes au quotidien. Et pour moi, ce sont probablement les personnes, que ce soit les acteurs sociaux ou les praticiens, qui sont le mieux à même de nous expliquer finalement quels sont les problèmes, quels sont les enjeux, les choses peut-être auxquelles nous ne prêtons pas suffisamment attention au niveau de la lutte contre l'extrémisme, et qui ont été invités à intervenir à la conférence. Et donc pour moi, c'était très important, on va dire à peu près 80% des intervenants sont soit des praticiens, soit des acteurs sociaux, et les derniers 20% sont des académiques. Il était très important aussi, je pense, qu'on puisse avoir un dialogue entre les praticiens, les acteurs sociaux et les académiques. Un dialogue qu'on ne retrouve plus beaucoup actuellement. Et c'est dommage, parce que je pense qu'on a beaucoup à apprendre des uns et des autres. Et le fait que la conférence ait été soutenue par le département des affaires étrangères australien, la commission thaïlandaise, ainsi que l'ambassade américaine et l'ambassade de France ici en Australie, je pense, souligne qu'il y a une certaine reconnaissance d'un besoin de dialogue entre les différents acteurs et intervenants au niveau de la conférence. Donc c'est un format qui est assez unique, je dirais. Ce que j'aimerais également rajouter, c'est l'importance de la composante, on va dire, ou de la dimension jeunesse au sein de la conférence, quelque chose dont on n'a pas encore parlé. Cette dimension, elle est très importante parce qu'aujourd'hui, quand on parle de Daesh ou quand on parle de lutte contre l'extrémisme, on parle beaucoup de la jeunesse, mais on entend très peu la jeunesse. Et je pense qu'il est urgent qu'on puisse recentrer ce débat autour des jeunes, autour de la jeunesse, et de pouvoir leur donner une plateforme et une possibilité de s'exprimer sur des thèmes, des choses qui leur tiennent à cœur. Ce ne sont pas toujours forcément des choses faciles à entendre, ce ne sont pas toujours des choses que l'on a envie d'entendre, mais je pense que si on veut vraiment pouvoir régler ces problèmes de l'extrémisme violent, il va falloir qu'on accepte d'écouter ces jeunes, et pas seulement de les écouter, mais aussi de les entendre. Et ça, je pense que c'est très important. Et donc, le deuxième jour de la conférence est très fortement axé sur cette dimension jeunesse. Nous serons en conversation jeudi matin avec Médine, autour de la question de la jeunesse, de son travail avec la jeunesse, de ses chansons aussi, qui sont très, très puissantes et qui sont porteuses de belles valeurs, je pense. Et nous avons aussi deux autres panels, où c'est un panel qui est axé uniquement sur la jeunesse. Nous aurons des intervenants de Belgique, australiens et aussi d'Angleterre. Ce panel est composé de jeunes, également de jeunes académiques qui traitent justement de la question de la jeunesse et de la radicalisation. Donc vous voyez, en permettant un mélange au niveau des différents panels de différents acteurs, on peut parler d'une même problématique, mais avec différents angles d'approche. Et ce sont ces différents angles d'approche qui permettent justement d'avoir un dialogue, je pense, d'ouverture et, je l'espère, constructif, qui nous permettra de faire des recommandations à la fin de la conférence.
Eh bien, on vous souhaite les meilleurs vœux pour cette conférence et merci d'être venu dans les studios de Radio SBS.
Merci de nous avoir reçus. Merci.
Vous êtes avec Radio SBS en français.